Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre podcast 100% consacré à la Formule 1 avec un invité exceptionnel cette semaine, Pierre Hamelin, l'ingénieur de course de Daniel Ricciardo, revenant donc à Austin cette semaine et qui était l'ingénieur de course de Pierre Gasly sur ce Grand Prix d'Italie mémorable.
L'aspirateur de sa victoire.
Exactement. Une interview fleuve, hein, vous allez voir, il est resté longtemps, il nous a accordé beaucoup de temps, c'est passionnant vraiment, restez avec nous, on commence par ça dans quelques secondes. On parlera aussi de l'arrivée ou non de l'équipe Andretti comme 11e équipe de la Formule 1 à horizon 2025-2026. Et puis on s'intéressera aussi à la bagarre au classement des constructeurs autour de la 3e place. On a quand même le sentiment que Mercedes est un petit peu à l'abri derrière Red Bull qui est déjà titré. Mais est-ce que McLaren ne peut pas aller chercher Ferrari pour la 3e place de ce championnat constructeur? On en parlera avec Stéphane cette semaine. Les Fous du Volant, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez aimé, et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, vous recevrez directement le prochain épisode sur votre smartphone. On débute avec l'interview de Pierre Hamelin, ingénieur de course de Daniel Ricciardo, mais qui a été aussi celui de Nyck de Vries et de Liam Lawson cette saison chez AlphaTauri. Comme promis, on se retrouve donc en compagnie de Pierre Hamelin. Alors une voix qu'on entend régulièrement, un visage qu'on voit quasiment jamais. Donc finalement, là, pour ceux qui ont les extraits vidéo, au moins vous pouvez mettre le visage sur le nom de Pierre Hamelin. Qui a été, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pierre, alors vous êtes ingénieur de course chez AlphaTauri et vous avez été l'ingénieur qui a fait gagner, allez disons-le comme ça, Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie 2020. À ma connaissance, vous êtes le seul ingénieur de course français en activité, vainqueur d'un Grand Prix. Je me trompe, ça a eu une importance ?
En activité, j'imagine oui. Ouais. C'est pour moi, ouais, c'est sympa.
Vous nous racontez un petit peu les coulisses de cette victoire. Parce que je crois que vous l'avez senti venir, le coup de stratégie, il vient de vous, il vient des stratégistes de chez Toro Rosso à l'époque. Comment ça s'est passé?
Donc c'est à Monza en 2020.
Oui, exactement.
Ouais, donc on était déjà à AlphaTauri. Donc déjà, merci pour votre accueil.
Mais,
Comme vous pouvez l'imaginer, on travaille en équipe avec beaucoup d'autres ingénieurs qui nous donnent des infos pour tout ce qui est pneus, stratégie, comment faire fonctionner la course. Et pour revenir sur Monza, c'est un peu un coup de bluff parce qu'au final, Magnussen, c'était une des deux As qui s'arrête à l'entrée de la pit lane.
Oui.
C'est vrai que le fait qu'ils ferment la pit lane, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Parce que c'est complètement en fonction de ce que les stewards et la FIA voient au moment donné. Donc nous, on est venu dans les box au bon moment pour ce qu'on avait besoin, au niveau des pneus et au niveau de la stratégie. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu... Au début, c'était la panique, honnêtement. quand on sort des box et qu'il y a la voiture de sécurité qui est déployée, pour nous, c'est un peu la panique parce qu'on se dit, on vient de changer de pneus, de faire un arrêt au stand. Et on va perdre beaucoup de temps par rapport aux autres parce que tout le monde va rentrer derrière nous et va profiter de ça. Mais quelques secondes après, d'ailleurs, c'était un peu la panique aussi à la radio avec Pierre. Et mais juste après ça, donc, ils ferment l'entrée des stands. Et là c'était gros bonus. Un peu comme au casino quand on joue et il y a quelque chose un peu inimaginable qui se passe. Donc là, on a assez vite compris que ça allait beaucoup nous bénéficier. Par contre, à quel point, j'avoue que c'était pas clair au début, pas clair.
Et après, Pierre a fait le travail. Moi, c'est une des choses qui m'ont le plus impressionné sur ce Grand Prix. C'est surtout, alors on entend évidemment Pierre Gasly hurler après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et vous, on vous entend lui dire quel mode moteur même. C'est quoi? C'est la concentration? C'est la force de l'habitude? Ou c'est parce qu'il faut continuer à faire le travail et puis ensuite on peut exploser?
En fait, c'est que nous, on sait que le moteur et la batterie, etc., on a besoin pour la course qui vient la semaine juste après. Et donc, il y a quelques petits trucs qu'on doit faire dans le tour après la fin de la course qui sont importants pour être sûr que tout fonctionne bien pour la course prochaine. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'au final, quand on finit la course, on doit encore envoyer la voiture chez la FIA. Et la FIA qui va tout regarder au niveau du poids de la voiture, au niveau de la légalité de la voiture, être sûr qu'on a tout fait comme prévu. Après, nous, on n'a aucun doute. On a fait le travail. Hein. Mais il y a ce petit truc qui manque pour être sûr que tout est bouclé. Et en fait, c'est qu'une fois qu'on a le résultat officiel à la fin de... plus tard le dimanche soir, qu'on est sûr que tout est bouclé. Même si une autre équipe pourrait venir avec un document disant que vous avez fait ça pas bien ou on pense que votre voiture est illégale pour ces raisons-là. Donc, c'est vrai, pour un team et pour moi, en tant qu'ingénieur, je n'ai pas l'habitude d'être dans ces positions. Je voulais attendre d'être sûr que tout était officiel.
Stéphane.
Alors, le paradoxe, c'est que c'est peut-être pas cette victoire qui vous a apporté la plus grande satisfaction. Monza 2020, on est en période Covid en plus. La deuxième place de Pierre Gasly à Sao Paulo en 2019 est juste extraordinaire. On le voit résister à Lewis Hamilton dans la dernière remontée. C'est fantastique pour la deuxième place. Ça, c'est une grande émotion pour vous.
Pour moi, c'est la plus grande émotion pour deux raisons. La première raison, c'est que Monza... On a fait un bon travail. On a réussi à capitaliser sur ce qu'on avait fait. Et Pierre a bien fini la course par rapport à... Il fallait quand même passer Stroll au deuxième départ et finir la course devant Sainz. C'est quand même assez difficile au niveau du travail à faire. Mais c'est vrai qu'à Sao Paulo, on avait une voiture qui était quand même rapide. Et on a fini là, mais j'ai l'impression un peu plus... On le méritait plus. Parce que toute la course... On était dans le top 5 et après c'est Albon et Hamilton qui se touchent un peu et qui nous donnent les places. Mais c'est vrai que à Sao Paulo on était là pour prendre le résultat au final. On avait la perfo, on était prêt. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est l'année où Pierre était revenu.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est l'année où Pierre avait débuté chez Red Bull où il est de retour chez Toro Rosso. Et l'histoire dit que vous avez insisté pour être son ingénieur quand il revient chez Toro Rosso, c'est vrai ça?
C'est vrai que après c'est difficile d'être quelque chose qu'on demande dans l'équipe parce qu'on travaille en équipe et c'est pas y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais la première fois qu'il est revenu, moi j'avais Brandon et c'est vrai que je connaissais bien Pierre, Brandon Hartley. Et c'est vrai que je connaissais bien Pierre dans le passé parce qu'on le voit souvent dans les paddocks et on est français, donc on se parle un peu. C'était le pilote de support Red Bull. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un peu dans l'hospitalité, etc., on discutait ensemble. Et quand il était venu la première fois chez nous et que je n'avais pas pu être son ingénieur, c'est vrai que ça m'avait un peu embêté parce que j'aurais bien aimé avoir ce côté... français. Et quand il est revenu de chez Red Bull, c'était important pour moi d'essayer de travailler avec Pierre.
Parce qu'on parle là de 2018, quand Gasly est le coéquipier de Hartley chez Toro Rosso, encore nommé ainsi. Et donc il est dans le garage d'à côté et vous dites quelque chose d'important, vous dites j'aime bien sa façon de travailler. Alors qu'est-ce qu'il y a spécialement dans la façon de travailler de Pierre Gasly qui vous donnait envie de travailler avec lui?
Pierre avait beaucoup d'expérience au niveau des monoplaces, avec son historique avec Red Bull et avec la Formule 2 et tout ce qui s'est passé avant. Donc au niveau de ce qu'il a besoin, des feedbacks, etc. pour le team, c'est vrai que c'était assez bien et assez clair et assez concis. Donc sa façon de travailler était bien. Et aussi au niveau de comment il se comporte dans l'équipe, et il pousse beaucoup l'équipe vers l'avant. Il est très demandeur, mais il est assez fair play, on va dire.
D'accord.
Avec le reste de l'équipe. Donc, il est demandeur, mais il est aussi demandeur de lui-même. Donc il est c'est toujours poussé pour le maximum.
D'accord. On va parler de cette saison quand même peut-être avec Pierre. Encore une question, Stéphane.
Oui, comment est-ce que vous jugez son parcours qui a été trop court chez Red Bull? Pierre a mis en avant le fait qu'il avait un ingénieur qui était assez jeune dans le métier, Mike Logue. Et il a dit, quand je suis arrivé, en fait, j'ai demandé à un ingénieur plus expérimenté. C'est vrai que lui, il craignait un petit peu d'être au contact d'un grand pilote comme Max Verstappen. Il sentait qu'il lui fallait plus d'expérience. Est-ce que c'est ça vraiment qu'il a un petit peu, on va dire, manqué ou déstabilisé même?
Pour être honnête, moi, ma façon de faire, quand Pierre est revenu avec nous, j'ai essayé de pas trop en parler de toutes ces choses-là. J'ai voulu un peu tourner la page. Parce que je pense que lui aussi avait besoin de tourner la page. Et donc, ce qui s'est passé dans ces mois-là, ce n'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup de connaissances et que j'ai compris moi-même, honnêtement. Mais c'est vrai que quand il est revenu chez nous, on a voulu partir d'une page blanche, essayer de bien comprendre ce dont il avait besoin. Et peut-être que la façon dont l'équipe Toro Rosso, AlphaTauri, parce que nous, on est quand même modélisé pour travailler avec des jeunes pilotes. Donc, on est très patient. On a un niveau de documentation qui a peut-être plus dans le détail que les pilotes expérimentés n'ont pas besoin. Peut-être que ça l'a aidé aussi. Mais c'est vrai que ces années-là, chez Red Bull, pour lui, je n'ai pas trop connaissance. Mais nous, quand il est revenu, l'idée, c'était on laisse tout derrière, on recommence et tu nous dis de ce dont tu as besoin.
Et ça a plutôt bien fonctionné, hein, donc, puisqu'il y a eu cette deuxième place à Interlagos sur l'avant-dernier Grand Prix de la saison. On va parler de cette saison 2023, Pierre Hamelin, parce que vous vivez quand même quelque chose d'assez unique. Vous démarrez la saison avec Nyck de Vries, donc, qui est un, on va dire, un vieux débutant, c'est-à-dire qu'il a déjà une belle carrière derrière lui, champion en Formule 1, pilote reconnu en endurance. Et puis, il arrive en Formule 1 avec juste un Grand Prix chez vous, donc chez AlphaTauri. Ça ne se passe pas bien. Il est remplacé par Daniel Ricciardo, encore un profil différent avec un pilote qui a gagné des Grands Prix, qui a été plusieurs fois troisième du championnat.
Deux fois
troisième du championnat. Ça doit être encore une façon différente de travailler. Puis Daniel Ricciardo se blesse. Vous vous retrouvez avec Liam Lawson. Alors là, pour le coup, qui est un vrai débutant. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça.
Pas simple. C'est vrai que c'était beaucoup de changements avec pas beaucoup de temps. Mais encore une fois, je pense que c'est un peu lié à ce qui s'est passé quand Pierre est revenu chez nous. C'est vrai que la façon dont on est construit, l'équipe, on peut quand même gérer ce genre de changement assez bien. Donc la façon dont on travaille avec toute l'équipe d'ingénieurs et dont l'équipe travaille pour préparer toutes les courses, on a quand même une documentation et une façon de faire qui est prête pour ce genre de scénario et qui est prête pour l'arrivée de nouveaux pilotes, pour être sûr qu'on est dans la meilleure position possible. Après, c'est vrai que c'était des pilotes qui sont tous très différents. Ils ont tous leurs qualités et des choses différentes pour travailler. Nick a beaucoup travaillé chez Mercedes en Formule I. Donc, c'est vrai qu'il avait une façon de faire qui était encore différente de ce que nous, on connaissait dans le passé. Donc, c'était super intéressant d'avoir son expérience et son retour sur ce que lui, il connaissait, ce que lui, il voyait dans les autres équipes ou sur la piste. Aux façons de faire pour les réunions, pour comment on organise un programme pour la session, etc. Liam, pour revenir sur Liam, m'a beaucoup rappelé Alex Albon. J'ai travaillé avec Alex quand Albon a commencé chez nous. Et encore une fois, c'est un peu comme Pierre, comme Alex. C'est un pilote qui a passé beaucoup de temps avec Red Bull, beaucoup de temps à côté de chez nous, qu'on voit dans l'hospitalité, à qui on parle beaucoup. Donc c'est vrai que son introduction était assez facile au final. Il est très ouvert, etc., à tout ce qu'on essayait de faire pour l'aider. Et Daniel, c'était encore... c'est assez impressionnant, l'expérience. Honnêtement, c'est vrai que c'est un pilote, quand il monte dans la voiture, quand il pilote, il a encore assez de capacité pour discuter de ce qui se passe avec les pneus, la stratégie, et comprendre ce qui se passe autour de lui. Je pense que l'expérience, c'est ça qui ça apporte beaucoup.
J'en reviens à Nyck de Vries. Je voudrais savoir si ce n'était pas une erreur, en tous les cas c'était un pari, de juger ce pilote sur une épreuve à Monza, ou alors est-ce que on peut bien juger un pilote sur un Grand Prix à Monza parce qu'il fait une pige chez Williams.
Exceptionnel.
Exceptionnel, voilà. Et puis on se dit, allez, bon coup, on y va. Il y a eu des jugements rétrospectivement qui étaient un petit peu sévères. Christian Horner qui dit, je ne voyais pas comment est-ce qu'il pouvait s'insérer dans le programme Red Bull. Ça n'a été qu'un, il a toujours été qu'un bouche-trou vis-à-vis de Pierre Gasly. Alors, je ne demanderai pas de commenter cette sortie-là, mais c'était clair là-dessus. C'est peut-être Helmut Marko qui a eu le mieux résumé la situation en disant, bon, on cherchait un petit peu l'étincelle, il n'a jamais fait ce tour qu'on attendait qui nous aurait épaté. Il n'a jamais fait ce tour waouh, on va dire. Est-ce que vous avez senti qu'effectivement, c'est un très bon pilote, mais que il lui manquait quelque chose de spécial qu'on recherche forcément chez Red Bull pour ensuite promouvoir les gens dans l'écurie première.
C'est difficile pour moi de juger la façon dont les pilotes, comment on juge leur performance et comment on prend ce genre de décision. Après, pour revenir au début de la question, il y avait Monza, mais c'est vrai que nous, on fait quand même beaucoup de préparation en amont. On a le simulateur. Red Bull a un simulateur. On a fait quelques essais aussi hors saison. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que Monza. Il y a beaucoup de critères pour décider ce genre de choses. Et après, au niveau performance, c'est vrai que c'est... Je pense que ça montre que ça reste un milieu quand même où l'expérience paye beaucoup. Il faut de l'expérience. Il faut... même si on a la maturité, même si on a... la vitesse, parce que Nick avait la vitesse. C'est vrai que c'est difficile pour comprendre l'évolution des pneus, la température de piste, l'évolution du vent, pour avoir justement ce tour magique dont vous parlez. Mais après, comment ça a été jugé, c'est vrai que c'est pas une question que je peux répondre moi-même.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on donne un petit peu plus de temps quand même aux pilotes pour s'adapter. Mais là, Helmut Marko avait dit, bon, bah, de toute façon, il a une énorme expérience et on lui a même mis beaucoup de pression par rapport à ça, en oubliant que c'était quand même un pilote dans un nouvel environnement, même s'il avait un palmarès extraordinaire.
Mais d'ailleurs, et je complète la question de Stéphane, est-ce que la pression qu'on avait mise sur Nyck de Vries, finalement très très tôt dans cette saison 2023, est-ce qu'il y a une partie de cette pression qui vient sur vous, son ingénieur?
Non, nous, honnêtement, on est vraiment très en dehors de ce genre de discussion. Tout ce qui est au niveau la façon dont on performe le pilote, etc., nous, au final, on travaille pour une équipe. On ne travaille pas vraiment pour un pilote. Donc, on va faire le meilleur travail possible pour l'équipe. On essaie toujours de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est vrai qu'on a tous travaillé dur avec Nick pour que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas eu de ce côté-là. Pour nous, il n'y a pas eu de changement. Et ce sera le cas pour tous les pilotes.
Comment est-ce que vous échangez concrètement avec Helmut Marko, qui est quand même responsable du programme Jeune Pilote? Qui essaie de placer, c'est lui qui a fait des paris, hein, même Verstappen, etc. C'est lui qui va chercher ces pilotes-là et qui les fait grandir. Mais quand il faut faire le constat, se poser la question, est-ce qu'on continue ou pas? Qu'est-ce qu'on a comme type de discussion? Et avec qui? Christian Horner, j'imagine, aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde en termes de data? On se projette sur une évolution de carrière, sur une progression qu'on ne juge pas suffisante à court terme, en fait. Mais sur quels critères?
Ça, je vous avoue que je n'ai pas du tout connaissance de ce topic.
D'accord, en fait, on n'en parle pas avec l'ingénieur de piste. Ok, bah, c'est intéressant finalement de savoir qu'on ne vous a pas demandé votre avis en gros.
Non, on ne me demande pas mon avis. Moi, encore une fois, je travaille pour l'équipe AlphaTauri. Bien sûr, ils ont accès à tous les rapports que l'on fait, tous les débriefs que l'on fait, les réunions. Il y a un chef au-dessus de moi, un autre chef au-dessus de ce chef-là. Et tous ces gens-là ont toutes les informations dont que nous, on produit.
Alors, question un petit peu délicate, Pierre Hamelin. On a entendu donc, que Sergio Pérez était quasiment condamné à finir deuxième du championnat ou bien il perdrait son volant chez Red Bull. On a aussi entendu qu'éventuellement, il pourra annoncer sa retraite au Grand Prix du Mexique. Vous, de ce que vous sentez, de ce que vous voyez, parce que vous êtes finalement le seul à avoir le nez sur les datas de tous les pilotes qu'on a cités, vous mettriez qui dans la voiture de Sergio Pérez s'il fallait remplacer le Mexicain? On ne dit pas que vous souhaitez le remplacer, mais s'il fallait le remplacer, vous mettriez qui? Daniel Ricciardo ou Liam Lawson? Ou éventuellement même Yuki Tsunoda?
Je passe.
Ok, bon, il fallait qu'on pose la question, alors, vous avez le droit de passer, question, il n'y a pas de problème.
Alors, question légèrement différente, Daniel Ricciardo va revenir à la compétition à Austin. Est-ce que vous le sentez prêt à aller demain chez Red Bull aussi, parce qu'il s'est réacclimaté, il avait besoin d'une nouvelle fraîcheur mentale, donc c'est pour ça qu'il s'est tenu à l'écart de la Formule 1, il a remis le contact, mais au simulateur. Puis il a senti cette envie, cet amour de la Formule 1 qui revenait. Et puis on lui a proposé de tester la Red Bull. Et il a dit OK. Et puis ça s'est enclenché très, très vite. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il est redevenu potentiellement le Daniel Ricciardo qu'on connaissait chez Red Bull?
Moi, je ne connaissais pas Daniel jusqu'à ce qu'il vienne nous voir. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour répondre complètement à votre question. Après, au niveau de l'envie et de la vitesse et de la préparation, je pense qu'il n'y a aucun doute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis cet agenda en place par rapport au Qatar et par rapport au fait de revenir à Austin, parce qu'on voulait être sûr qu'on ait assez de temps pour être bien préparé et pour être très clair qu'il n'y avait aucun doute qu'il serait à 100% quand il revient. Après, c'est vrai que Daniel, encore une fois, il a une expérience énorme. Il connaît tous les circuits et c'est un gros avantage.
On va parler maintenant de votre métier d'ingénieur de course, parce que nous, quand on regarde les Grands Prix, on entend des bribes, des morceaux d'échanges radio entre vous et votre pilote. Est-ce que ça parle beaucoup? J'aimerais bien que vous nous disiez, en fait, vous nous expliquiez, c'est quoi votre métier d'ingénieur de course pendant le Grand Prix, parce qu'on imagine que vous interagissez avec les stratégistes, avec les gens qui ont les yeux sur le moteur, sur les données aéro. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez à la fois le pilote, toute l'équipe technique qui est derrière? Comment ça se passe?
Il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser pour décrire un peu ce qu'on fait. Ça me fait un peu penser à un chef d'orchestre. Donc on a beaucoup de gens avec beaucoup d'informations et beaucoup de voix derrière nous. Et notre travail, c'est d'essayer de mettre tout ça ensemble pour que la musique fonctionne et pour faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Donc, moi, mon travail, c'est d'être un peu le filtre entre le pilote et l'équipe. Donc, quand je dis l'équipe, c'est principalement tous les ingénieurs qui me donnent les informations et le reste de l'équipe dans le garage pour... quand la voiture est dans le garage, mais pendant la course, bien entendu, la voiture est en piste. Donc, je reçois énormément d'informations, donc, comme vous le savez, pour les pneus, pour l'aérodynamique, pour la stratégie, etc. Et donc, mon travail consiste en deux choses. La première chose, c'est moi utiliser ces informations pour faire en sorte que la voiture soit la plus performante possible. Donc, en fonction de la dégradation des pneus, on va changer quelques switches pour aider un peu la balance de la voiture. On va utiliser le moteur un peu différemment pour essayer de faire en sorte qu'on optimise un peu tout. Et donc ça, c'est la première partie, vraiment optimiser la performance avec toutes les informations qu'on nous donne. Et la deuxième partie, c'est d'essayer de filtrer quelles informations le pilote a besoin de savoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers nous, mais le pilote, bien entendu, il est en train de conduire et il n'a pas vraiment le temps de penser à tout ça. Donc, on essaie de faire en sorte que ce qu'on lui livre, c'est une information qui a été traitée, dont on sait qu'elle est correcte, qu'elle est cohérente et que ça va lui servir.
Est-ce que... Pardon, allez-y, continuez, c'est pas
sûr. Non, mais ce qui est intéressant, c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui regardent un peu leur écran et qui regardent toutes les informations et qui, par exemple, on est en train de se battre avec un autre pilote, en train d'essayer de doubler, etc. Et là, on reçoit des messages pour sauver les freins ou pour sauver le moteur ou pour essayer de faire attention aux pneus. Mais c'est vrai que ce n'est pas le genre de message qu'on veut donner au pilote quand il est en train d'essayer de se battre pour une position avec une autre voiture.
Et alors justement, est-ce que c'est vous qui tranchez quand il y a des doutes sur une stratégie? J'imagine que parfois, il y a deux stratégies possibles. Est-ce que c'est vous qui tranchez ou est-ce que finalement c'est le pilote? Vous donnez les éléments au pilote et puis c'est à lui de se débrouiller?
Non, donc honnêtement, de plus en plus, et je pense que c'est le cas dans toutes les équipes, vraiment l'ingénieur stratégie et le chef ingénieur, donc qui s'occupe un peu de tous les ingés, C'est eux ensemble qui décident de la stratégie et le pilote a beaucoup d'influence par rapport à ce qu'il sent pour nous aider un peu à recalibrer ce qu'on avait prévu de faire. Mais c'est assez rare que le pilote décide de la stratégie. Je pense, ça peut arriver de temps en temps, quelquefois, quand vraiment on a un pneu qui dégrade beaucoup plus que prévu ou une course avec une voiture de sécurité qui était pas là où on avait prévu. Mais c'est vrai qu'on fait quand même confiance à notre équipe d'ingénieurs. Et même moi, de mon côté, ce qui est important de venir de moi et du pilote, c'est le comportement voiture. Donc, comment est la voiture au moment présent? Comment sont les pneus? Est-ce qu'on pense qu'on peut faire 5 tours de plus? Est-ce qu'on pense qu'on peut faire 10 tours de plus avec la vitesse qu'on a en ce moment? Ou alors, est-ce qu'on a des freins qui sont trop chauds? Il faut essayer de trouver un peu moins de trafic parce que il faut nous aider avec les freins qui sont en surchauffe. Donc, moi, mon travail et notre travail avec les pilotes, c'est de donner ces informations-là. Et après, ça reste quand même la décision du stratégiste de nous faire rentrer dans la plaine.
On va parler de 2024, on va parler de l'avenir maintenant, Pierre Hamelin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer chez
Tout
AlphaTauri,
on a
Stéphane.
l'impression. Tout, sauf vous, j'espère déjà. Mais on allait
Moi
vous
aussi.
poser la question justement, dans quel bureau nous parlez-vous en ce moment? Parce que AlphaTauri a envie de se déployer en Angleterre aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont migrer d'Italie vers l'Angleterre? Combien est-ce que de recrutements sont prévus en Angleterre pour étoffer le département aéro et performance véhicule? Donc ça, c'est quand même pas rien. Il y a 115 personnes, je vois, en ce moment à Bicester, en Angleterre, dans l'antenne AlphaTauri. Ça va s'étoffer très rapidement. C'est vraiment l'objectif de se rapprocher aussi de Red Bull. Mais dans un premier temps, pour vous, est-ce que ça va changer?
Avant que vous répondiez, Pierre, je vais quand même dire pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas encore exactement au fait, Red Bull a dit quand même qu'il voulait reprendre un petit peu plus le contrôle d'AlphaTauri qui avait eu un petit peu plus de liberté. Et puis comme les résultats n'ont pas forcément suivi, ils veulent reprendre un petit peu tout ça. Vous en êtes où, vous, dans tout ça, pour reprendre la question de Stéphane?
Ah, nous, on fait le travail un peu comme d'habitude au final. C'est vrai
Ouais.
qu'on est, on suit l'actualité comme vous. On a les informations un peu plus tôt que vous, mais c'est pas à mon niveau que ce genre de choses est discuté. Mais pour en revenir à votre question, donc moi personnellement, j'habite en Angleterre, donc je suis basé là où il y a tout ce qui est aéro. Et je passe un peu de temps aussi en Italie, là où il y a l'usine mère, pour essayer de passer un peu de temps avec quand la voiture est là-bas, etc. Mais comme vous le savez, avec le calendrier qu'on a maintenant, la voiture, elle n'est pas souvent à l'usine. Donc au final, notre travail, il a changé un peu récemment. Mais donc, en ce moment, on avait un tunnel aéro et des bureaux qui étaient à Bicester, en Angleterre. Et donc, depuis quelques années, on utilise le même tunnel que Red Bull.
2021, je crois.
Je préfère pas dire de date au cas où je parle bon mois.
D'accord.
Mais ouais, ça fait 2 ans qu'on utilise le même tunnel aéro. Et du coup, ça a beaucoup de sens de se rapprocher encore un peu plus. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup discuté dans la presse que maintenant, il y a une partie de l'équipe qui va bouger un peu plus près de Red Bull, donc c'est à Milton Keynes. Et bah pour moi ça fait un peu plus de route, mais c'est pas grave. Et au final, donc on utilise quand même le simulateur de Red Bull. On a quand même la synergie avec Red Bull, comme vous le savez. Donc c'est vrai que ça va simplifier les choses. Je pense que ça va pas beaucoup changer techniquement. Techniquement, je pense que ça reste assez similaire, mais ça simplifie quand même les déplacements et ça simplifie quand même la communication.
Gilles a parlé effectivement d'un rapprochement. La perspective, c'est d'avoir une monoplace inspirée vraiment de Red Bull avec beaucoup de pièces mutualisées, si on a bien compris tout ce que permet le règlement, parce que vous êtes peut-être arrivé en tant qu'équipe indépendante au bout d'un modèle. Vous avez essayé de développer l'équipe indépendamment techniquement, et puis alors malheureusement, vous êtes dixième au championnat avec 5 points. Helmut Marko a tapé du poing sur la table en disant ça n'est plus possible, il faut faire autrement parce que ça n'est pas la place d'AlphaTauri. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors concrètement, on va aborder un tout petit point technique. La Red Bull est vraiment la voiture référence du plateau. Et puis, il y a une autre voiture qui monte en puissance en cette fin de saison. C'est la McLaren. Et elles ont un point commun. Elles ont une suspension avant attirant. Toutes les autres sont à poussoir. Donc, c'est deux solutions radicalement différentes. On entend que Mercedes va aller vers la solution Red Bull. Alors, on ne sait pas dans quelle proportion. Est-ce que pour vous, c'est ça aussi en perspective, c'est-à-dire travailler avec une voiture légèrement différente, parce que tout le monde cherche globalement à mieux exploiter les pneumatiques, à s'ouvrir un champ des possibles en termes de réglage sur l'exploitation des pneus, de l'aéro, etc. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil finalement, et est-ce que c'est la bonne solution d'avoir l'avant de la Red Bull l'an prochain sur votre voiture?
Donc ça, bien entendu, je ne peux pas répondre à la question directement, mais une chose que je peux dire, en tout cas de mon point de vue, en tant que performance voiture et ce qu'on a en piste, bien entendu, comme vous l'avez dit, on n'est pas là où on veut être. On n'a pas performé cette année comme on devrait, comme on veut. Donc c'est clair qu'il y a, il y a toutes les raisons pour essayer de faire des changements pour l'année prochaine, parce que quand ça ne fonctionne pas, faut tout remettre un peu en question, essayer de faire les choses un peu mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ces voitures, au final, le fond plat, c'est quand même ça qui amène presque toute la performance. C'est beaucoup de charges avec pas beaucoup d'effets traînés. Donc, on peut gagner beaucoup de downforce avec pas beaucoup d'effets traînés, ce qui veut dire que le fond plat, c'est quand même l'endroit où tout le monde travaille énormément. Et après, je comprends votre question par rapport à la suspension avant, mais c'est pas... Ça va pas changer le jeu énormément. Je pense que ce que font les gens, il y a des petites choses qui aident un petit peu à droite à gauche. Mais si on regarde McLaren, si on regarde Aston Martin les années d'avant, qu'est-ce que ces voitures-là ont changé pour essayer de se rapprocher? Elles ont fait un fond plat qui se rapprochait un peu plus de la voiture qui est en haut du championnat.
Et c'est d'ailleurs votre axe de travail et de développement pour la fin de saison chez AlphaTauri, le plancher. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le DRS de la Red Bull, que vous pourriez peut-être avoir aussi l'an prochain, vous fait saliver? Il y a Pierre Vacher qui a dit, le directeur technique de Red Bull, je suis étonné que les autres directeurs techniques n'aient pas bien compris encore comment fonctionne ce DRS en accord avec le plancher, parce que ça fonctionne en cohésion. Et est-ce que vous avez un petit peu percé ce mystère et vous avez eu accès à des données ou à des astuces qui vous font comprendre comment fonctionne l'arrière de la Red Bull?
Il est français aussi, Pierre Vacher. Vous pouvez vous parler tous les deux, vous donner des petits tips.
Ouais, après, encore une fois, moi, je suis ingénieur de piste, donc c'est vrai que tous ces côtés aérodynamiques et techniques, j'ai pas toutes les infos et tous les secrets. Mais pour être complètement honnête, on reste quand même très distancé de Red Bull sur ce genre de discussion. Parce qu'il y a les régulations, donc il y a un nombre de choses qu'on peut échanger, mais ce genre de discussion, on ne peut pas l'avoir. Et donc, on salive autant que toutes les autres équipes, quand on regarde les traces GPS, et pourquoi on perd un peu en ligne droite. Après, encore une fois, le fond plat aide beaucoup, parce qu'on trouve pas mal de charges, avec peut-être moins de... Donc, c'est plus efficace. Et Red Bull a sûrement une voiture qui est juste beaucoup plus efficace que la plupart des autres équipes. Mais il y a beaucoup de régulations, il y a beaucoup d'essais FIA dans le garage. Même nous, quand on n'est pas en Q3, même nous, quand on est P15, on a la FIA qui vient dans le garage, qui mesure le DRS et qui nous demande d'ouvrir l'aileron et qui vérifie tout et qui vérifie que la voiture est comme on l'avait expliqué. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun doute, c'est juste une voiture qui fonctionne mieux.
Ça reste donc très cloisonné entre Red Bull et vous. Nous, on imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses qui circulent, mais vous nous dites que non, le règlement fait en sorte que quand même, il n'y a pas autant d'échanges que ce qu'on pourrait imaginer.
Non, c'est très cloisonné, énormément.
Quand tu parles de cloison, quelle a été votre réaction quand vous avez vu la Red Bull de Sergio Pérez en suspension au bout d'un fil à Monaco une vue imprenable sur les petites ailettes, le plancher, tout ça, c'était vraiment une œuvre d'art, on va dire. Mais pour vous, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a surpris?
Moi, personnellement, ça ne m'a pas beaucoup parlé, parce qu'encore une fois, ce n'est pas trop mon domaine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dessous dans le bureau en ce moment. Ça a surpris un peu tout le monde. Mais après, je pense qu'il faut accepter qu'au final, c'est passé dans la presse. Mais au final, toutes les équipes ont quand même les yeux ouverts dans ce qui se passe tous les week-ends dans la pitlane, etc. Et les secrets sont durs à garder très longtemps.
On a parlé de changements importants cet hiver et en début de saison prochaine. L'arrivée de Laurent Méquies en tant que directeur d'équipe, ça c'est très très important. Comment est-ce que...
C'est un ancien
de Toro Rosso qui a vraiment voilà, fait ses gammes chez Toro Rosso. Guillaume De Zotteux est aussi chef de la performance véhicule chez AlphaTauri. Il y a une petite French Connection qui se met en place aussi. Comment ça fonctionne, tout ça.
À votre accent, on sent quand même que ça ne parle pas trop français. Ça parle que anglais, j'ai l'impression. Italien, quand même.
Ça parle que anglais. Pas beaucoup. Je comprends l'italien, mais je ne parle pas assez pour une discussion poussée.
Mais sur l'arrivée de...
On est pas mal de français.
Oui.
On a notre stratégiste qui est française, Karine. On a nos ingés pneus qui viennent souvent de chez Michelin, qui sont français. Donc, on a pas mal de français dans l'équipe. Et c'est vrai qu'on se fait souvent rappeler dans les bureaux qu'il faut parler anglais. Mais Laurent, j'ai travaillé avec lui quand je suis arrivé chez Toro Rosso. Donc, c'était en 2014. Et c'était mon chef. Il avait le travail de Guillaume maintenant. Donc, c'était le chef Vehicle Performance. Et donc, je travaillais directement pour Laurent. Et c'est vrai que je connais un petit peu. On se dit bonjour dans les paddocks. Donc, ça va être sympa d'avoir quelqu'un qu'on connaît.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de son passage chez Ferrari? Son travail était reconnu, hein, clairement. Là, il va avoir un input important chez AlphaTauri aussi.
Oui, alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup de connaissances techniques, pas juste en tant que directeur de l'équipe, mais aussi des connaissances techniques. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de connaître un peu tout comment fonctionne et prendre des nouvelles idées par rapport à comment on organise les réunions, comment on organise les discussions avec les pilotes, comment on parle avec les pilotes.
Tout le processus d'exploitation, en fait.
Exactement, c'est ça. Et tout ce qui est la logistique autour de l'équipe. Donc, ça va être intéressant. Et après, c'est vrai qu'il est aussi passé par la FIA. Donc, il a une connaissance assez gigantesque par rapport à la FIA et par rapport à la F1 en général.
Ben, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai juste une dernière petite question, Pierre Hamelin. On a entendu plein de choses plus ou moins rigoureuses et plus ou moins vérifiables. Quelle température il faisait dans l'habitacle des voitures au Qatar, là, sur le dernier Grand Prix? Parce qu'on a entendu jusqu'à 70 degrés. Vous les avez, ces informations-là? Je ne sais pas si elles sont vraiment secrètes ou pas.
J'ai pas de température dans le cockpit, mais je pense que honnêtement, par rapport aux courses que j'ai fait dans le passé, c'est vrai qu'il faisait très très chaud et le niveau d'humidité dimanche était vraiment très très haut. Donc je pense que c'est la combinaison de chaleur et humidité qu'on fait que les choses étaient très compliquées.
Ah bah ça tombe bien parce que c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, justement au lendemain de ce Grand Prix du Qatar. C'était l'humidité, bah la chaleur, oui, mais l'humidité qui avait posé beaucoup de soucis aux pilotes. Je crois qu'on va vous remercier, Pierre. C'était passionnant et on pourrait faire des heures, mais on est un peu limité aussi pour notre podcast. Merci beaucoup. Là, vous allez bientôt prendre l'avion pour aller au Texas.
Merci à vous. Et je suis encore à l'usine pendant 2 jours et je prends l'avion mercredi matin pour le
D'accord.
Texas.
Okay.
Et jeudi matin en piste.
Eh ben merci beaucoup d'avoir intégré la confrérie des fous du volant. C'était très très intéressant. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin de cette saison et puis pour la suite.
Merci à vous.
Merci Pierre. On enchaîne avec le deuxième sujet, Stéphane, qu'on voulait développer dans les fous du volant aujourd'hui, à quelques heures maintenant hein, de ce Grand Prix d'Austin au Texas, en terre américaine. L'arrivée, finalement ou pas, de cette 11e équipe de Formule 1 à l'horizon 2025, l'équipe donc de Michael Andretti. Je voudrais déjà resituer un tout petit peu, Stéphane, parce que moi, quand j'ai entendu dire que Andretti pourrait arriver en Formule 1, sachant que le détenteur des droits de la Formule 1 est désormais une société américaine, je me suis dit, bah oui, c'est logique, il y a 3 Grands Prix désormais aux États-Unis, une équipe américaine qui arrive, soutenue en plus par un constructeur américain, General Motors, c'est une voie royale, voilà, en quelques jours, ça va être réglé. Eh ben non! Pas du tout. Difficile de comprendre hein, quand même pourquoi ça a pris une telle tournure. Et en fait, au fil des mois, depuis l'arrivée de Mohamed Ben Soulayem à la tête de la Fédération internationale de l'automobile, hein, il a pris la suite de Jean Todt à ce poste, et bien les relations se sont un petit peu tendues entre la FIA, donc Mohamed Ben Soulayem, et la FOM, qui gère la Formule 1. Cette arrivée, ça fait maintenant débat et ça fait même presque une guerre civile au sein de la Formule 1. Stéphane, pourquoi ça serait une bonne chose? On va dire clairement, ça serait une bonne chose. Nous, on pense que finalement, il y ait une 11e équipe. On rappelle que le règlement dit qu'il pourrait même y en avoir 13 équipes de Formule 1. Pourquoi ça serait bien?
Alors, guerre civile, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a des frictions, ça c'est sûr. Et ce que pose cette question de l'entrée ou pas d'Andretti, c'est, on a 10 écuries aujourd'hui en Formule 1, est-ce qu'on s'en tient à ce chiffre? Manifestement, quand on écoute tous les patrons d'équipe, il faut en rester à 10. Et donc, derrière ça, il y a, est-ce que la Formule 1 doit devenir une ligue fermée?
Tout une simplement, ligue fermée, c'est donc un nombre
qui ne
d'équipes.
S'ouvre pas.
Voilà.
Bon. Alors, la FIA, historiquement, a toujours accueilli des équipes qui étaient en candidature spontanée. Il y a des équipes qui s'inscrivaient nouvellement au championnat sans demander d'autorisation à quiconque. Ils remplissaient simplement les critères, c'est-à-dire une voiture dans le règle, deux pilotes, basta, etc. Et là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que le business est entré là-dedans et que, globalement, d'un côté, il y a la FIA qui gère les règlements et qui a en propriété en fait la Formule 1, et de l'autre côté il y a le promoteur du championnat du monde qui a acheté les droits commerciaux, qui les exploite, qui commercialise les épreuves, et ces deux entités là ont de plus en plus de mal à se parler. Et tout est parti d'un tweet en janvier dernier où, il y avait déjà des frictions, hein, c'est clair, entre Mohamed Ben Soulayem et le promoteur du championnat du monde. Et il y a une rumeur qui court comme quoi l'Arabie Saoudite voudrait racheter la Formule 1 à hauteur de 20 milliards de dollars. Et là, il y a Mohamed Ben Soulayem qui dit, bon, faut garder un petit peu du bon sens dans cette histoire. En voulant dire, le prix est quand même très très élevé. L'actuel promoteur, donc Liberty Media, l'avait acheté en 2017 pour 4,7 milliards d'euros. Et lui, il dit, bon, c'est son message en filigrane, c'est trop élevé. Et là, il s'est pris une volée de bois vert de tous les autres patrons d'équipe parce que justement, le business se développe. Et pour eux, c'est bon pour la valeur aussi de leur écurie. Et ils ont dit très clairement, il faut que la FIA, il ne faut plus que la FIA s'exprime sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, Mohamed Ben Soulayem, depuis, s'est mis en retrait sur ces questions-là. Mais il est revenu par l'intermédiaire de la candidature d'Andretti à cette pour être la 11e écurie en disant nous on est OK. Voilà, ils ont rempli tous les critères, ils ont ouvert en fait les candidatures, il y a eu 4 ou 5 candidatures plus ou moins exotiques, il y en avait une de sérieuse, soyons clairs,
celle d'Andretti,
celle de Michael Andretti, fils de Mario Andretti, champion du monde de Formule 1 en 1978.
Elle a été validée le 2 octobre.
Voilà, et donc il y a un volet d'abord réglementaire sur le sérieux, sur la solidité
financière.
Du projet financière, et puis maintenant on passe au volet, la FIA a passé le dossier dans les mains
de la
Formula One. Voilà, en disant, maintenant, en fait, mettez-vous d'accord sur tous les aspects financiers. Et ça fait à peu près 2 ans que Andretti pousse pour ça, et on leur a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Après, pour les bloquer, on leur a dit, finalement, en fait, on a un gâteau qui est en 10 parts, ça va faire 11 parts, on va avoir un manque à gagner. Là, on va mettre un ticket d'entrée, le prix d'entrée, ça va être 200 millions de dollars. Ils pensaient que c'était dissuasif.
Et, ben
et puis, Andretti a dit, pas de problème, là, je les pose tout de suite, on y va. Et depuis, ils ont dit, c'est vrai que le sport s'est développé, on va faire x3 maintenant, 600 millions de dollars. Alors, là, c'est bon, c'est pas très sérieux, c'est vraiment pour dire tu n'es pas le bienvenu. Mais maintenant, en fait, c'est ce que va discuter vraiment concrètement Michael Andretti pour son entrée en Formule 1. Combien va-t-il payer, sachant que quand tu donnes 200 millions pour un ticket d'entrée, tu le donnes une fois et chaque écurie récupère 20 millions de dollars. Et l'année suivante, bon, en fait, tu n'as rien et tout est départagé en 11. Et puis après, ceux qui étaient là à l'origine, les 10, s'estiment lésés parce qu'ils ont, ils ont 10% de moins, quoi.
Alors, il y a une sorte de personnalisation de la bagarre désormais entre Mohamed Ben Sulayem et Stefano Domenicali. Et Mohamed Ben Sulayem, il a quand même un peu voulu taper du poing sur la table en disant « Nous ne sommes pas un prestataire de service. Le championnat nous appartient, autrement dit la FIA, hein, bien sûr. Nous le louons et nous sommes le propriétaire. Il faut respecter ça. » Là, on sent que d'un seul coup, en fait, le ton est un petit peu monté. Je le dis, j'ai presque le sentiment que c'est devenu un bras de fer personnel entre ces deux-là, parce que Stefano Domenicali, il faut essayer de comprendre aussi un petit peu l'intérêt de tout le monde. Stefano Domenicali et donc la Formule 1, eux, ce qu'ils veulent, et on le voit bien, c'est faire de plus en plus de grands prix, parce que plus de grands prix, ça veut dire plus de retransmissions de télé, ça veut dire aussi plus de pays visités. Chaque fois, ces pays payent, donc le business rentre. Ça, c'est l'intérêt de la Formule 1. Quand Stefano Domenicali parle avec les responsables d'équipe lui disent ce que tu nous disais, Stéphane. Oui, mais nous, on est 10 à se partager un gâteau. Si on devient 11, la part, elle va être plus petite. Donc, d'où l'idée des 200 millions qui sont devenus après les 600 millions. Donc, en fait, ces deux clans-là, finalement, s'entendent pour dire non, on veut personne de nouveau. Et donc, la FIA dit maintenant, pour embêter la FOM, Mohamed Ben Sulayem, il l'a dit là, il a reçu pas mal de journalistes pendant le Grand Prix du Qatar. Je pense plutôt que le nombre de courses est trop élevé par rapport au nombre d'équipes. On a besoin de plus d'équipes et de moins de courses. Autrement dit, voilà. Ouais. C'est une sorte de bras d'honneur verbal en disant je suis le patron de la FIA, je baisse pas les yeux, en disant même maintenant voilà, on a acté la candidature, on a validé la candidature d'Andretti, ça va être compliqué de la refuser. Là, il y a vraiment maintenant une pression sur les instances de la Formule 1 pour qu'on accepte cette nouvelle équipe. C'est pas fait encore, hein, clairement.
Non, mais Andretti, c'est la candidature la plus solide, la plus sérieuse depuis longtemps en Formule 1, qui n'est pas armée par un grand constructeur. Et encore, quoique, ils ont proposé GM dans la corbeille de mariage en début d'année pour
General Motors,
solidifier cette candidature. Et General Motors, en IndyCar, c'est Chevrolet. En Endurance, c'est Cadillac. Andretti est aussi engagé en Formule E, en Extreme E. Bon, donc, c'est une organisation absolument tentaculaire. Ce sont des gens extrêmement sérieux qui ont la culture du sport auto. Et moi, je trouve que Andretti, c'est un grand nom. Et déjà, rien que ça, ça parle à tout le monde et ça serait une valeur ajoutée. Alors, dans le clan Andretti, on a dit on arrive dans un club européen. Et c'est vrai que c'est tout à fait ça.
Et ça, c'est un petit pic aussi à l'équipe Haas, qui est censée être une équipe américaine. Gene Haas, c'est un pilote américain, sauf que l'équipe, elle est quand même européenne, quoi qu'il arrive.
Oui, alors... Oui, parce que c'est l'équipe un petit peu en kit. Ils ont une usine qui est à peu près vide à Canapolis, assez symbolique, à Banbury, et ils font tout designer en fait par Ferrari en Italie. Donc c'est l'équipe un petit peu éparpillée façon pause.
Voilà, c'est l'Amérique Canada Dry.
J'en reviens à ce concept de 11e équipe. Formula One était d'accord pour que cette 11e équipe soit Porsche. Et Porsche s'est retiré. Il y a eu la guerre entre Porsche et Audi.
Il y a ça aussi, j'avais oublié
Audi
ça.
Racheter en fait Sauber,
voilà.
Et puis fabriquer la voiture châssis plus moteur en complet. Ils ont un moteur à faire là, c'est le travail actuellement qu'ils ont à réaliser.
Et donc finalement,
Porsche n'est pas venu et donc il n'y a pas
ils disent à Andretti, mais rachète une équipe.
Ce qui était assez, c'est l'ironie de l'histoire quand même, c'est que les 10 patrons d'équipe étaient d'accord pour que Porsche vienne parce que Porsche serait venu en fait comme constructeur à part entière ou comme motoriste. Enfin, ils étaient favorables à cette arrivée-là sans savoir ce qu'il y avait derrière ça. Bon, et maintenant, en fait, on n'est plus d'accord sur l'identité de la 11e équipe parce qu'on trouve que Andretti, c'est pas assez sexy. Bon, je suis désolé, par rapport à l'engagement, par rapport au palmarès de la famille Andretti dans tous les sports mécaniques, victoire aux 500 Minneapolis, en championnat du monde, c'est la liste et sans fin.
Je pense qu'il faisait, il disait qu'ils étaient d'accord pour l'arrivée de Porsche, mais dans l'idée, il y avait la volonté, dans un deuxième temps, de faire monter les enchères comme ils l'ont fait là avec
mais,
Andretti.
Si Andretti, alors on parle en fait là de quelque chose, Andretti, Michael Andretti a dit, ben, on viendra quand on sera prêt, quand ça aura du sens, surtout. C'est ça qui est important. Il visait 2024, maintenant c'est plutôt 2025, ça sera peut-être finalement 2026.
Quand ce qui ne serait pas illogique.
Si ça a du sens, c'est vrai que c'est une nouvelle motorisation, on va voir, parce que vraiment 2025 même, à l'échelle de la Formule 1, c'est demain. Mais quand ils vont venir, s'ils viennent en tant que 11e équipe, rapidement, ils ne seront plus la 11e équipe. Je pense, parce que si là, on pose la question de la légitimité d'Andretti en Formule 1, on pose, tu l'as déjà posé la question de la légitimité, la représentation de ce que ça, de l'envergure de Haas en Formule 1 aujourd'hui, qui ben, ne fait pas le job. Hein. Ils sont arrivés en 2016, globalement adossés à Ferrari, et puis c'était promis de fabriquer, de designer la voiture.
Bah de faire une F1 américaine, complète, états-unienne.
Voilà, et c'est jamais arrivé. Tout simplement. Et puis, AlphaTauri, ça reste quand même dans l'esprit. Ça va même le redevenir encore plus, l'écurie B de Red Bull. Alors, est-ce que ces écuries-là, je vous pose la question, ont vocation à rouler régulièrement en tête et à se développer? Non, la réponse est non. Haas ne s'est jamais réellement donné les moyens. AlphaTauri, c'est une équipe qui a pour vocation d'abord de former des jeunes pilotes,
c'est une pépinière, voilà,
pour alimenter Red Bull, ce qui fait que ces deux équipes seraient déjà moins légitime que Andretti dans ce qu'on peut attendre pour, en termes de concurrence sur le plateau. Donc, je trouve que c'est un petit peu léger de penser comme ça. Et puis, à un moment, si on fait rentrer une 11e équipe, eh ben, s'il y a un faible dans cette histoire, à un moment donné, ben, cette équipe va peut-être partir. Je ne sais pas si Haas... l'engagement de Haas ne tient qu'à Jean Haas. Le jour où ce monsieur va se lasser, bah, il dira peut-être je revends ma licence ou je ferme la boutique, terminé quoi. Mais ce qui est intéressant quand même aussi, c'est que Andretti, il a envie de venir avec un pilote américain, Colton Herta, qui est bien coté, auquel AlphaTauri avait pensé pour remplacer Pierre Gasly, ce qui n'avait pas été possible parce qu'il pas tous ces points de super licence. Ils ont un projet quand même derrière qui est fort.
Ce qui est complètement fou hein, d'ailleurs, hein, qu'un pilote comme Colton Herta n'ait pas sa super licence. Mais bon, ça c'est un détail. Ce qu'il faut voir aussi, et puis on attendra les prochains épisodes pour revenir sur le sujet, c'est que là il va y avoir maintenant une vraie lutte d'influence. Parce que clairement, la Formule 1 peut se passer du tampon FIA. Aujourd'hui, la marque Formule 1, elle est supérieure à la marque FIA. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais n'empêche que c'est le cas. Et en fait, la FIA a besoin de la Formule 1. La FIA, s'il n'y a plus la Formule 1, elle dépose le bilan. Hein. Les revenus de la Fédération internationale de l'automobile, c'est essentiellement issu de la Formule 1. Donc, il y a aussi un bras de fer par rapport à ça. Un bras de fer... dans lequel chaque équipe a aussi éventuellement un mot à dire, certaines plus que d'autres. Vous vous doutez bien que le poids de Ferrari, si Ferrari dit demain, imaginons que ça tourne vraiment au cauchemar et qu'il y ait scission entre la Formule 1 d'un côté et puis la FIA de l'autre. Si Ferrari dit, bah, moi je suis le championnat que va faire la FIA, le balancier basculera du côté de la FIA. Si Ferrari dit non, moi je reste sur ce championnat qui s'appelle Formule 1, ça basculera du côté de la Formule 1. Et tout ça interagit. Il y a du personnel, il y a du financier, il y a du business.
Il y a de la politique.
C'est inextricable.
Il y a de la politique.
Oui, clairement.
Aujourd'hui, Ferrari a tout intérêt à avoir Haas sur la grille. Red Bull, tout intérêt à avoir AlphaTauri parce que ça leur fait des droits de vote supplémentaires. Quand il faut prendre des décisions, ils ont des votes déjà qui sont acquis.
Ouais.
Et là, faire entrer une écurie supplémentaire, c'est diluer aussi l'influence politique.
Ça réduit leur poids. Voilà,
ça les arrange pas du tout. Et puis dans cette histoire, il y a des gens qui sont pas à leur place. De toute façon, Lawrence Stroll, le boss d'Aston Martin, qui dit je vois pas la valeur ajoutée d'Andretti dans cette histoire. Bon, on va lui envoyer les palmarès et puis il comprendra peut-être un petit peu mieux. Et puis surtout, ce monsieur n'a pas beaucoup de mémoire parce que quand Force India met la clé sous la porte dans le courant de l'année 2020, je crois.
Ah, ça, tu sais mieux
voilà,
que moi.
Il rachète l'écurie, mais il rachète l'écurie avec l'autorisation des autres équipes, avec l'autorisation de la FIA, pour la faire redémarrer en cours de saison. Elle va s'appeler Racing Point, cette écurie, et puis il va amasser des points, donc de l'argent, et il va commencer à avoir des revenus en prévision de son arrivée sous le nom d'Aston Martin quelques années après. Ça veut dire qu'il oublie un petit peu d'où il vient, qu'il est rentré avec l'assentiment des patrons d'équipe, et puis maintenant il veut pas que les gens de nouveaux arrivants, il veut pas de 109. Je ne comprends pas bien.
Il n'oublie rien, il fait du business et c'est son métier. Donc voilà où on en est pour l'instant. La F1 va débarquer au Texas, à Austin, en plein bras de fer. C'est vrai que je parlais de guerre civile, le terme est un peu fort, en tout cas en plein bras de fer entre la FIA et la FOM pour savoir si Andretti rejoindra le clan de la Formule 1 et à quelle échéance. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été publiées ces dernières semaines sur le sujet, on ne s'y était pas encore attardé. Voilà, on a fait le point et on en reparlera, je pense, d'ici les prochains mois, parce que forcément, ça va évoluer.
Alors Gilles, petite précision, je viens de vérifier, donc Force India a mis la clé sous la porte en 2018. Voilà.
D'accord. Petit modificatif et voilà, correctif. On va parler maintenant pour conclure cette édition des Fous du Volant, du classement des constructeurs et de la bagarre autour de la troisième place au classement des constructeurs. On sait que Red Bull est champion. Mercedes, on a le sentiment, c'est sorti un petit peu de la mêlée à la deuxième place. 326 points pour Mercedes. Et derrière, bah, c'est un peu la foire d'empoigne. Ferrari, 298 points. Donc, il y a 28 points de retard par rapport à Mercedes. Aston Martin, 230 points. Et McLaren, 219. Il y a un vrai gap, hein, parce qu'après, c'est Alpine avec un total de 90 points. Alors, la question, c'est... Est-ce que Ferrari n'est pas désormais dans le viseur de McLaren? Alors vous pourrez nous dire, attendez, vous nous avez dit que Aston Martin était quatrième. Ouais, Aston Martin a 11 points d'avance sur McLaren. J'ai envie de dire, quelque part, ils sont déjà effacés, Aston Martin. On est d'accord là-dessus, Stéphane?
Bah là, sur la progression, entre guillemets, des derniers Grands Prix, on ne voit pas comment est-ce que maintenant ils vont redresser la barre. Alors moi, je te donne mon pronostic tout de suite pour le résultat du championnat. Je vois quand même Ferrari troisième.
Résister au retour.
Tout à fait, ils ont quand même pas mal de points. Ils ont 79 points d'avance sur McLaren, donc ça va être dur en 5 Grands Prix plus 2 courses sprint. En tous les cas, ça serait vraiment une énorme surprise. Il faudrait que McLaren fasse 2 ou 3 gros coups encore. Donc McLaren, je les vois bien quatrième, et puis Aston Martin rétrogradé à la cinquième place.
Eh bien, j'ai un doute quand même, parce que sur le classement des 3 derniers Grands Prix, en faisant le calcul, McLaren a inscrit 104 points au total. C'est plus que Red Bull, hein. Red Bull a inscrit 74 points sur les 3 derniers Grands Prix. Ferrari, on a inscrit 70, donc ils ont repris quand même 30 points à Ferrari sur les 3 derniers Grands Prix. Mercedes, 53. Quasiment la moitié de McLaren. Pour vous dire, hein, Aston a marqué 13 points et Alpine 17. Donc, on a chaussé les bottes de cette lieue-là du côté de chez McLaren. Et à ce rythme-là, ben, moi, je me demande si Ferrari peut vraiment résister et conserver cette troisième place au classement des constructeurs. Surtout qu'effectivement, il y a les courses sprint et qu'on a le sentiment là, qu'avec Lando Norris et Oscar Piastri, ben, on peut combler ce retard. Moi, c'est le sentiment que j'ai. On va voir ce que ça va donner. On peut dire quand même un mot peut-être de Mercedes, en disant que, parce que finalement, Mercedes, ils sont juste 30 points devant ce peloton. Il y a un nouveau plancher qui va débarquer à Austin pour Mercedes. Plus de 100 points d'avance par rapport à Mercedes. Ils sont vraiment à l'abri, Mercedes? On est sûr de ça?
Mathématiquement, non. Non, l'écart avec Ferrari est pas énorme. C'est ça qui est assez incroyable, 28 points.
Mais McLaren est devenu vraiment l'épouvantail de cette fin de saison.
Ah bah, ils sont au taquet, même partout. Gilles, je te parle de temps en temps des rapidités d'intervention lors des pit-stops. On l'a vu là, quand même quelque chose de spectaculaire qu'on n'imaginait même pas. Depuis le nouveau règlement en 2022, des roues plus grandes, plus lourdes. Et donc, on nous avait dit, mais en fait, oubliez les temps d'intervention avec les anciens pneus, parce que maintenant, c'est beaucoup plus difficile. On n'atteindra jamais les 1 seconde 82 de Red Bull au Brésil. Eh bien, si. Voilà,
le dernier record effacé. Grand Prix. Ah ouais.
McLaren s'est positionné en tête avec une intervention de 1 seconde 80 pour Norris. Donc,
2 centièmes de mieux.
2 centièmes de mieux, tout à fait. Et puis, là, en fait, ils ont doublé Red Bull, ce qui fait qu'on les voit quand même assez agressifs depuis quelques temps sur les interventions. Ça, c'est vraiment la marque de la montée en gamme d'une équipe, c'est-à-dire la motivation d'un pit crew. On avait reçu, il y a 2 ans,
J'allais exactement t'en parler, je sais ce que tu vas me dire.
C'est que c'est une compétition dans la compétition de motivation pour les mécaniciens. Ils y tiennent beaucoup. Il y a certaines équipes où on oublie complètement ce paramètre-là. Et pour d'autres,
par exemple chez Mercedes,
c'est important.
Laurent Rossi nous avait dit que chez Alpine, il se méfiait plutôt de ce concours parce que pour gagner 1 centième, tu peux perdre une course.
Oui.
C'était son argument qui semblait effectivement tenir la route. Bon, c'est pas le cas chez, McLaren.
En fait, tu t'alignes aussi par rapport à tes concurrents directs. Et là, McLaren, en faisant ça, ils estiment aussi que leurs concurrents directs, ils ont envie de jouer dans la même cour que Red Bull, que Mercedes, que Ferrari. Et là, on en a eu la preuve. Alors, il y a dans l'histoire de la Formule 1 eu 29 interventions au stand qui ont duré moins de 2 secondes. Et maintenant, donc, c'est McLaren qui est en tête devant 11 interventions de Red Bull.
Voilà. Ça, c'est les boules.
Donc, on a le tableau complet qu'on vous propose en 2 parties sur ce top 29. Alors, il y a du bleu marine partout. Hein. On ne vous fait pas trop de suspense. À la 12e place, il y a simplement du bleu ciel de Williams. Mais ça, c'est une intervention qui date de 2016.
Oui.
Et l'écurie Williams apparaît à la 23e place et à la 29e place. Mais autrement, encore une fois, c'est que du Red Bull. Et il y a 2 touches, 2 rouges. C'est du Ferrari au Qatar quand même, lors du dernier Grand Prix. 1,93 aussi. Donc, c'est la 17e intervention la plus rapide. Et puis, après, ça remonte à Brésil 2018. Donc, Ferrari, il ne joue pas non plus trop à ça. C'est vraiment une chasse gardée de Red Bull. On a aussi un petit peu de McLaren... 1,98 à Mexico l'année dernière, ce qui fait qu'ils sont vraiment devenus agressifs. Moi, pour moi, c'est aussi la marque d'une écurie ambitieuse. Zak Brown, il n'est pas là pour rigoler, pas là pour dire ça, on le laisse aussi aux autres. Et sur un Grand Prix comme le Qatar, où tu dis au départ, en fait, vous allez faire 3 arrêts au stand, c'est gain contre triple, tout simplement, entre une intervention de 1,80 et une intervention qui fait 2 ou 2,20, ça compte, tu fais ça fois 3. Et McLaren, je crois aussi, a eu la 3e intervention la plus rapide avec Piastri. Je crois que c'était 2 secondes pile. Ça veut dire que les gars n'étaient pas là pour rigoler. Et on est entré un petit peu dans une autre configuration. Et puis, tu disais, Gilles, une paire de pilotes qui est quand même assez magnifique. Alors, Verstappen, avec son sens un petit peu de la mesure, alors, il a été malin. Il a été malin parce
c'est ce que j'allais dire.
Il a dit, derrière nous, je pense que la paire... Norris, Piastri est la plus performante. C'est la meilleure du plateau. Il aurait pu dire de toute façon avec nous aussi Verstappen plus Perez parce que ça n'aurait pas changé grand chose. Mais simplement, il a voulu ménager un petit peu ses propres intérêts. Je ne pense pas ça complètement quand même. Je pense encore que la paire Hamilton-Russell est une somme d'expérience et de rapidité un peu supérieure.
En termes de potentialité, ça mériterait un débat.
On en parlera peut-être dans 3 ans, suis d'accord.
Oh, Gilles, mais pour l'instant, c'est
ça.
Si tu veux.
Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que Zak Brown a eu le nez creux. Il n'y a pas d'autre histoire là-dessus. Voilà.
Alors, on a parlé de McLaren, faut quand même faire le point aussi sur ce qu'ils ont dans le viseur. Ferrari, troisième de ce championnat, 298 points. Il y a un nouveau plancher qui est arrivé au Japon. Manifestement, il a quand même bien fonctionné, même un petit peu plus d'ailleurs que ce à quoi on s'attendait, même chez Ferrari, parce qu'au Qatar, on a quand même réussi à plutôt bien l'exploiter. Est-ce que Ferrari peut continuer? Alors, toi, tu penses qu'ils vont conserver cette 3e place du championnat? On grossit un peu le trait. Si ça se passe aussi bien que ça, il y a 28 points de retard sur Mercedes. Oui. Est-ce que Ferrari, vice-champion du monde des constructeurs, c'est envisageable?
Sûrement envisageable. Mais moi, je soulignerais juste un petit point. C'est les abandons qu'on a vus d'ailleurs lors du dernier Grand Prix au Qatar. Un forfait de Sainz parce que la voiture avait trop souffert sur les vibreurs. Et si on regarde dans ce triste championnat des abandons, on voit que Ferrari a abandonné 5 fois quand même, Aston Martin 4 et McLaren simplement 1 fois.
Ouais.
Hein. Donc aussi. 34 voitures engagées cette année en Grand Prix, 33 à l'arrivée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps là. Maintenant, ils vont être là jusqu'à la fin de la saison. Et ça, c'est un facteur qui est important. On verra ce que ça donnera pour Ferrari, mais ils sont un peu à découvert sur ce critère-là.
En tout cas, ça va nous faire une fin de saison franchement passionnante avec ces trois équipes.
Et tu mises pas du tout sur Aston Martin, je te comprends, parce que là, rappelle-moi le nombre de points qu'ils ont marqué, je crois que c'est 13,
ouais, 13
sur les trois derniers Grands Prix.
Sur les trois derniers Grands Prix, ouais, je crois que c'était 17 sur les quatre derniers Grands Prix. Non, là, pour reprendre ta célèbre citation qui m'avait fait mourir de rire un jour, en ce moment, c'est plus Martin que Aston. Et on est vraiment dans ce cas de figure.
Bon. Alors, justement, chez Aston Martin, un petit point, c'est qu'on les sent vraiment sur une pente descendante. Stroll, il a fait un Grand Prix du Qatar par certains aspects lamentables, on va le dire.
Catastrophique.
Oui, bien, ouais. Bien, je valide. Il reste sur 4 éliminations en Q1, ce qui l'a passablement énervé. Alonso sur 16 Grands Prix, sur les 4 derniers Grands Prix, c'est quand même assez faible.
Tu veux dire quoi? 16 points.
Oui, 16 points sur, ouais, les, sur les 4 derniers Grands Prix. Ouais. Et puis, il y a quelques lumières comme ça qui s'allument. On réalise que pour être un constructeur à part entière et pas simplement un assembleur, il faut faire un petit peu plus d'investissement. Là, ils commencent à se plaindre parce qu'avec le moteur Honda, il va falloir se lancer. Ils ont lancé les études sur la fabrication d'une boîte de vitesse, puisqu'ils utilisaient jusqu'à présent une boîte de vitesse d'origine Mercedes. Ouais. C'était tout le train arrière, livré clé en main, moteur, boîte de vitesse, donc transmission. Et là, maintenant, ils disent, en fait, ça va nous coûter plus cher. Il faut du recrutement, ça coûte des pièces, de l'ingénierie, etc. Et là, ils disent, en fait, nous, ça nous arrangerait qu'on simplifie vraiment la boîte de vitesse. Ils ne sont pas à dire qu'il faut standardiser cet élément-là, mais ils commencent un petit peu à se plaindre. Ce qui fait que jusqu'à présent, ils avaient le beau rôle. Ils achètent des pièces, ils assemblent, tout va bien. Et maintenant, ils se rendent compte un petit peu des efforts que font Red Bull.
Si ça se trouve, General
Ferrari,
Motors, ils
Mercedes.
Pourraient proposer une boîte de vitesse.
Tout à fait. Mais voilà, donc là aussi, ils rentrent un petit peu dans le dur. Et c'est là où ça, on va pouvoir les juger un petit
Exactement.
Peu sur la longueur de l'effort.
Exactement. Ça sera intéressant de voir ce qui va se passer sur ce sujet-là dans les prochains mois et notamment durant l'intersaison. On va faire le point sur ce qui nous attend du côté de Austin. Alors là, attention, on va se coucher plutôt tard, Stéphane. Les premiers essais libres, vendredi à partir de 19h30. Et la qualif, parce que c'est un week-end sprint, la qualif aura lieu à 23h vendredi soir. La qualif pour le Grand Prix de dimanche. Samedi, journée autonome, c'est-à-dire le shoot-out, la qualification du sprint à 19h30. La course sprint, samedi soir à minuit. Donc là, juste avant d'aller en boîte de nuit, Stéphane, une petite calife.
C'est
et
ça.
Ensuite, hop, on met nos plus beaux pas de bœuf et on va guincher. Et puis le Grand Prix aura lieu dimanche à 21h. Bon, c'est toujours spectaculaire le Grand Prix d'Austin au Texas avec un circuit qui a quand même quelques très très beaux atouts à faire valoir. Et puis donc, ces bagarres qui vont être intéressantes au niveau du classement des constructeurs, savoir si Sergio Pérez aussi va s'être remis un petit peu dans le sens de la marche. On a vu qu'on lui avait bien mis la pression du côté de chez Red Bull. Plein de choses à suivre et dont on parlera la semaine prochaine dans une nouvelle édition des Fous du Volant. Et d'ici là, on coupe le contact.